Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, Cervantes, Anne Hidalgo, désinvolte. Cervantes a écrit divinement dans la divine langue espagnole la plus belle qui se parle sous le ciel, affirmait Giraud de Saint-Fargeau, auteur d'une histoire littéraire française et étrangère publiée en 1854. Aucun auteur de sa nation ne peut lui être comparé pour l'élégance, la pureté, le bon goût du style, le tout aisé et naturel, principalement pour cet heureux emploi des idiotismes, sans lequel un écrivain n'a point de physionomie, un ouvrage point d'agrément et de vivacité. L'éloge n'est pas faible. Il est vrai que son personnage, Don Quichotte, traduit dans toutes les langues, est resté sans copie, comme il n'avait point eu de modèle, dit encore Giraud de Saint-Fargeau. Mais Cervantes n'est pas que l'auteur d'un seul livre. Il a composé plus de 30 pièces de théâtre. Il a aussi écrit une douzaine de nouvelles traduites en français par l'abbé Saint-Martin et par Lefèvre de Villebrune. Don Quichotte fait partie de la littérature universelle. Et cela fait 400 ans. Dès l'origine, ce fut une révélation. 30 000 exemplaires de l'édition originale de la première partie du El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, à Madrid, c'est Juan de la Cuesta, en 1605, furent vendus en quelques années. Un chiffre considérable pour l'époque. Malgré ce succès, Cervantes gardait sa préférence à Persiles y Sigismunda. Un autre de ses romans, qualifié de monstrueux par Ludovic Lalanne, auteur des Curiosités littéraires, qui date de 1845. Est-ce la raison pour laquelle Cervantes ne se pressa pas pour achever la suite des aventures de son héros? Un faussaire l'y poussa. En 1614, à Tarragone, un certain Alonso Fernández de Avellaneda, qui se disait licencié en théologie, en fait on pense qu'il s'agit du moine frais Alianga, fit paraître une suite du Don Quichotte qui ne présentait qu'une lointaine ressemblance avec le style et la langue de Cervantes. Cette version a été réimprimée un certain nombre de fois, même à Madrid, en 1732 et en 1805. Le sage traduisit cette suite sous le titre des Nouvelles aventures de Don Quichotte. Piqué au vif, Miguel Cervantes reprit la plume et fit paraître la Segunda Parte, toujours sur la Cuesta, en 1615. Il convient de l'ajouter avec la cinquième édition de la première partie, publiée encore par la Cuesta et datée de 1608. Celle-ci contient des corrections importantes et d'importants changements. La première édition des deux parties réunies, Primera et Segunda Parte del Ingenioso Don Quijote, sortie à Barcelone chez Seb Mateoad en 1617, en deux volumes, en petit en octavo, est, on s'en doute, aussi rare que précieuse. Et les éditions se succédèrent à un nombre qui nous dépasse. Chez nous en France, la première partie, traduite par César Houdin, est parue en 1614, titrée « Le valeureux Don Quichotte de la Manche », traduit de l'espagnol de Michel Cervantes, à Paris chez Jean Fouet. La seconde, traduite par François de Rosset, suivie en 1618. Et les deux réunis ne seront publiés qu'en 1639 et souvent réimprimés. Le nombre de traductions de l'histoire de Don Quichotte serait aussi important que les illustrations qu'elle a inspirées. En 1677, Philo de Saint-Martin faisait paraître en quatre volumes une traduction mieux écrite, mais beaucoup moins exacte que celle de César Houdin, affirme le bibliographe Jean-Charles Brunet. Cette version fut à nouveau imprimée, suivant la copie de Paris chez Claude Barbin, en 1681, en quatre volumes, dans le même esprit que les productions des presses de Elsevier, les imprimeurs hollandais d'Amsterdam. Cette même traduction fut reprise encore à Amsterdam, pour Mortier, en 1696 et en cinq volumes. On ignore le nom du traducteur du cinquième volume, mais Robert de Chaal s'est fait connaître pour être l'auteur du sixième, imprimé toujours à Amsterdam, en 1715 et à Paris, en 1722. Dans les années 1790, Jean-Pierre de Florian, un neveu de Voltaire, proposa une adaptation assez dans le goût de l'époque, donc peu fidèle et de plus abrégée, qui sortit chez Didot en l'ancêtre de la République, c'est-à-dire 1799, en six volumes dans le petit format N18. Puis, François de Bretonne proposa en 1837 une synthèse assez laborieuse des versions antérieures qui continuait néanmoins à être réimprimée. il n'y a pas une année sans que l'on ait vu apparaître une nouvelle édition de Don Quichotte, dont certaines ne manquent pas d'allure. Faisons une parenthèse pour nous pencher sur des illustrations particulières. Charles Coypel réalisa pour le compte du duc d'Antin 28 cartons pour 15 tapisseries sur le thème de Don Quichotte, qui furent tissés vers 1717 par des Gobelins sous la direction de Robert de Cotte, architecte du Grand Trianon. Cette série connut un tel succès qu'elle fut remise sur le métier au moins 9 fois avec des variantes jusqu'au seuil de la Révolution. Cette série de Coypel fut copiée par les Italiens. Le thème de Don Quichotte était très prisé en tapisserie car il permettait une grande variété de scènes, extérieures, intérieures, batailles, genres, etc. Et des manufactures françaises, belges et même napolitaines s'en donnèrent à cœur joie. Revenons aux traductions. La première satisfaisante serait celle de Louis Viardot. Don Quichotte de la Manche, traduction nouvelle par Chez Dubochet, en 1836 et 1837, en 2 volumes d'octavo. Cette édition comporte 800 vignettes de Tony Jeannot, l'illustrateur qui, sans doute, a le mieux compris le texte de Cervantes. Bon, nous ne sommes pas là pour juger toutes les traductions françaises d'hier et d'aujourd'hui et à venir des aventures de Don Quichotte. D'autant plus qu'on en compte environ 80. Sachons néanmoins que le texte de Viardot est aussi celui qui fut illustré par Gustave Doré, Cachette publia en 1863 en 2 volumes in folio. Cette édition comprend 2 frontispices, 118 planches sur chine collée et 257 vignettes dans le texte gravé sur bois par Pisan. La renommée de Doré a beaucoup fait pour cette édition alors que certains lui reprochent d'avoir accentué l'aspect grotesque de l'Hidalgo. Georges Sand, qui avait acheté un exemplaire de cette édition pour ses petits-enfants, n'était pas de cet avis. Elle écrivait à Doré le 31 décembre 1863. « Je vous dois, non pas seulement de 12 instants, mais une impression profonde et durable qui se lie en moi à l'aspect et au sens de chef-d'œuvre de Cervantes. » Énumérer les différentes illustrations qui ont inspiré le célèbre Hidalgo prendrait encore de nombreuses minutes. Au XIXe siècle, outre Jeannot et Doré, Célestin Nanteuil, Bouchot et de Morène, Granville, Bertal et Forêt s'y sont également essayés. On en compte une dizaine au moins pour le XXe siècle, Daniel Vierge, Gust Boffa, Bertholmann, Dubout, Jacques Touchet, Louis Joux, Georges Regnault, Henri Lemarié, Descaris, etc. On peut encore citer celle de Dali qui ne présente pas un grand intérêt et encore moins celle de Chirico pour une version italienne considérée par un bibliographe comme une exquise laideur. L'une des dernières mérite en revanche qu'on s'y arrêta. Il s'agit de l'édition illustrée par Gérard Garouste dont la traduction aux prises de Gérard Houdin pour la première partie et de François de Rosset pour la seconde, revue par Jean Cassou, chez Diane de Cellier en 1998. Garouste a composé 150 gouaches et 126 lettres ornées. Ici, tout est neuf et nouveau. Ce Don Quichotte ne ressemble à aucun autre. L'humour et la force du texte s'allient à celle du peintre pour traduire l'humeur donchicotesque dont aucun siècle ne s'est détourné. »